Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un nouvel épisode de la série L'écologie aux petits oignons. La série qui emprunte les mirettes d'humains passionnés de ces multiples êtres peuplant notre planète. À chaque épisode, nous écoutons ce que l'humain peut percevoir dans toute sa diversité. Cette semaine, nous retrouvons deux créatrices de connexions sensibles d'une compagnie d'art du vivant. Pouvez-vous vous présenter pour nos auditeurs ?
Moi, c'est Léontine, j'ai 33 ans, je vis dans le Lot, au milieu des bois, dans une maisonnette ronde en paille. Je fais partie d'une espèce en voie de disparition qui trouve son renouveau en ce moment, à savoir les herboristes. Je suis tombée dans le chaudron il y a une douzaine d'années en faisant du woofing au Canada et depuis cette rencontre avec les plantes, quand je suis revenue en France, j'ai décidé de les cultiver, de les cueillir en milieu sauvage et les transformer en remèdes. Et de transmettre aussi leurs usages en animant des balades botaniques à travers des ateliers. Celles qui dansent toujours la première pendant les soirées alors que personne n'ose danser, ou toujours en première ligne à tous les concerts.
Et la dernière à quitter la piste. Bon, j'ai aussi fait de la danse classique et puis du modern jazz, du contemporain. La danse fait partie de moi. J'ai retrouvé la danse en 2017 avec une compagnie qui s'appelle État d'âme, qui m'a ouvert ses bras et qui m'a embarqué dans une belle aventure humaine. Depuis 2017, je joue des spectacles avec eux. Et la dernière pièce que l'on a créée en 2020, c'est une danse du vivant qu'on a essayé de mettre en œuvre dans ce spectacle qui s'appelle IF, en référence aux champignons mycorhiziens.
Moi, c'est Adeline. Je travaille à la fois avec des enfants, où je propose des ateliers d'éveil corporel. Je joue aussi du théâtre depuis que j'ai 15 ans. Non, je joue du théâtre surtout pour les enfants, donc dans les écoles, dans les crèches, dans les bibliothèques. Je pianote aussi souvent, alors pas sur un piano malheureusement, mais sur un ordinateur pour organiser, coordonner des actions culturelles et artistiques avec l'association Arzimu, qui est notamment l'association qui héberge la compagnie État d'âme, dans laquelle on danse avec Léontine et avec 10 autres personnes. Danser, vraiment, c'est quelque chose qui me tient au corps, qui me tient aux tripes, qui donne aussi un sens à la vie de tous les jours. Des fois, ça arrive de plus savoir vraiment pourquoi on a les pieds sur terre, et le fait de rentrer dans le mouvement et d'aller dans la rencontre grâce au mouvement, ça ouvre des portes, notamment dans la matière invisible qui permet de rencontrer l'autre au-delà d'un être social. Ça me plaît aussi de contempler pendant des heures les paysages, de me baigner aussi, de lire des livres pour enfants, même juste pour moi, d'aller voir des spectacles.
Dites-nous, qu'est-ce que le vivant pour vous ? Comment le définiriez-vous à deux têtes, en trois mots, une couleur, une odeur, un son, un goût, une texture ?
Pour moi, le vivant, c'est toutes les couleurs. Rien n'est figé, on ne peut pas se restreindre à une couleur. Qui est vert deviendra orange, puis rouge, puis marron. Et toutes les nuances de couleurs existent dans la nature entre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, quelle couleur choisir ? Si je devais en choisir une, ce serait le vert. Parce que c'est ce qui représente la vie organique, celle dont on fait partie et dont on ne pourrait pas faire partie si le vert n'existait pas. Le vert, c'est la couleur de la chlorophylle, celle qui fait la photosynthèse, qui crée de la matière avec la lumière du soleil. Sans ce vert, on ne serait pas là pour observer les belles couleurs.
Moi, je pensais à l'impermanence du vivant, le fait que tout se transforme et que tout est en perpétuel mouvement. Mais si je devais choisir une couleur, quand même, ça serait la couleur de l'eau. Donc je vous laisse choisir quelle eau.
L'odeur du vivant, pour moi, c'est celle de l'humus, de la forêt. Une odeur boisée, profonde, terreuse et douce, et qui me fait sentir chez moi, en lieu sûr. C'est une odeur qui me rappelle que la vie est bien là.
qu'elle palpite, qu'elle grouille, qu'elle vit sous mes pieds. C'est une odeur aussi de cette terre qui nous nourrit et qui transporte la vie dont on fait partie. Pour moi, l'odeur de la vie, c'est la vie organique, celle des vers de terre dans la terre.
Je pensais à une texture pour le vivant. Ça me fait penser à une texture qui d'abord craque, comme s'il y avait cette rencontre avec le vivant, comme une surprise. Qui craquent comme ça sous la dent et qui fond après, pour nous inviter à se relier à la profondeur du vivant et la profondeur de la vie, même en dehors du sens qu'on peut y mettre, mais en fait d'aller se relier sur des vibrations profondes, loin de l'être social notamment. Il y a un goût d'infini pour moi, quelque chose qui fond.
Alors moi, quand je pense à une texture du vivant, ça me ramène à une sensation, puisque la texture, on la touche avec notre corps, donc on la sent. Et c'est pour moi une sensation de grouillement, un espèce de grésillement subtil, comme la sensation du sang qui pulse dans nos doigts. Ces sensations de la vie qui palpite, c'est le rappel au mouvement perpétuel qui fait que la vie est vivante. Quand il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de vie. Un son.
Ouais, j'ai pensé au son des marées. Donc un son qui embarque la vie, qui la ramène, qui l'emmène dans tous les sens.
Le ressac. Les bruits de l'eau sont tellement beaux, tellement apaisants. Si je devais en choisir un, ça pourrait être celui que je choisis aussi.
On plonge.
Comment retranscririez-vous cette vision du vivant dans vos projets, par exemple de la compagnie?
Avec le spectacle IF, l'idée, c'est d'inviter le public à partager une expérience et de vivre un moment avec eux, d'être en suspension entre le ciel et la terre, comme toute matière organique que nous sommes, et de se relier entre nous et avec le vivant de manière sensible. Les mouvements de notre danse sont guidés par ce lien, le lien que l'on veut faire entre nous et avec le vivant. On se fait l'écho des arbres, des champignons, du vent, du feu. On évoque par nos mouvements les textures du vivant. Petit à petit, on rentre de plus en plus en contact avec le public. On danse au milieu d'eux, entre eux, avec eux même. On les touche, on les regarde dans les yeux. Par cette adresse qui passe plus par les sens, on s'adresse au public d'une manière à l'embarquer dans une forme d'engagement, mais qui est complètement sortie de contexte politique ou de culpabilité. On est dans une autre dimension qui est celle du rapport vraiment sensible et personnel au vivant. Et on essaye de l'éveiller, tout comme on essaye de l'éveiller en nous, puisqu'on n'a rien à apprendre aux autres.
Dans cette création et avec le public, c'est comme si on se demandait à nous-mêmes, danseurs, danseuses, de dire perpétuellement ici, maintenant, à toutes les cellules de notre corps, et qu'on invite le public à aller dans l'inconnu et peut-être dans l'infini avec nous, à un endroit qui est comme un fil tendu hors temps, la dimension de l'instant présent qui est très fort, et dans une recherche aussi d'authenticité dans notre création. On n'est pas dans une recherche de performance technique, et même s'il y a des choses techniques très belles, ça va plus de l'affaire pour moi du sensible, du cellulaire. Où est-ce que naît le mouvement dans mon corps et où est-ce qu'il va et à quel moment il va pouvoir résonner dans le corps d'un autre et à quel moment on va pouvoir transformer mon mouvement, son mouvement et ensemble rentrer dans une danse pleine de surprises.
La bande son qui prend une grande part dans le spectacle puisqu'on a créé un montage sonore qui est un patchwork de textes, de poésie originale, de musique originale et de musique de film. C'est vraiment un vrai patchwork qui pour nous a du sens pour toucher aussi le public peut-être à un autre niveau qui est peut-être plus intellectuel ou une sensibilité plus basée sur les mots. Nos corps répondent à cette bande-son, en fait, elles se complètent l'un l'autre. L'idée, c'est aussi de donner des clés de lecture au public qui n'aurait peut-être pas l'habitude de voir de la danse, d'être traversé par la danse, donc que ça aide certaines personnes à s'accrocher à la pièce et à apporter touches de poésie par les mots, ce qui est très beau aussi. Toucher des personnes et de se relier autour d'une cause, de se relier au vivant parce qu'on en fait partie.
À la fois, dans notre spectacle IF, il y a la dimension chorégraphique qui est présente et il y a la dimension poétique avec la bande sonore. Chaque personne du public a le casque audio et la bande son en continu pendant 45 minutes. Ça invite vraiment à une forme d'introspection et de rentrer dans le spectacle à partir de l'endroit où on se sent.
Qu'est-ce que l'humain selon vous, pourrait apporter à l'ensemble du vivant?
C'est l'inverse. C'est le vivant qui doit tout apporter à l'humain. L'humain fait partie du vivant, il n'a rien à lui apporter d'autre que de l'écoute, du respect, que l'humain gagne en humilité, qu'il arrête de vouloir tout contrôler, apprendre à l'observer, parce que plus on l'observe, plus on s'émerveille. Ça me fait penser à notre ami Hervé Covès, qui est dans notre bande-son, qui est à la fois ingénieur agronome et frère franciscain, et donc il connaît très très bien le vivant. Il s'en émerveille aussi chaque jour, et son message, c'est de dire que la vie est belle. Si l'humain a quelque chose à faire pour le vivant, c'est de voir sa beauté, c'est de la respecter.
Ne pas savoir quoi lui apporter, mais juste écouter, observer, être dans la préservation des ressources. En fait, j'ai l'impression que l'humain qui peut apporter au vivant, c'est de se placer au même niveau d'écoute qu'une feuille, qu'un arbre, qu'un animal. On expérimente les pratiques somatiques beaucoup avec la compagnie État d'âme. Et aussi chacun individuellement, on va se former notamment en Alexander ou en pratique de body-mind centering. C'est des pratiques qui invitent à prendre conscience de l'état cellulaire de son corps, à prendre conscience de son corps en mouvement, en relation avec les autres et avec le vivant. Ça dépasse aussi le vivant humain, ça peut être le vivant non humain. Ces pratiques somatiques apportent aussi une humilité. Au moment donné où j'écoute ce qui se passe dans l'os de ma main, je découvre que l'infini est dans ma main et à la fois c'est très petit mais très vaste et que je suis vraiment un mini grain de sable dans l'univers mais que j'ai besoin d'air, que j'ai besoin d'eau, que j'ai besoin de feu et que tout ça fait qu'on est de la matière vivante tout le temps en train de se transformer.
Ces pratiques somatiques dans le travail qu'on a fait pour IF, ça a été vraiment une révélation dans mon rapport au vivant, dans mon rapport au végétal que j'ai quotidiennement. Beaucoup de la compagnie travaille la terre, produisent des légumes. On a tous bougé d'un certain niveau dans notre rapport au paysage, au végétal, parce qu'en fait, on s'est mis en relation avec et être en relation, bah, aller vers, c'est aussi se laisser approcher par. On s'est vraiment prendre une autre place dans cette vie, dans le vivant, quoi.
On va passer à la question d'actu. Le 14 octobre dernier était discuté à la Commission européenne la prolongation temporaire d'utilisation du glyphosate durant un an. Pour rappel, l'utilisation de cet herbicide, le plus utilisé en tant que substance active dans la protection des cultures, doit être interdit à compter de mi-décembre 2022. Si la majorité des États membres ont soutenu cette prolongation, plusieurs États se sont opposés, comme le Luxembourg, Malte et la Croatie. France, Allemagne et Slovénie se sont abstenus. Faute de majorité absolue, la procédure a été bloquée. Le dossier va passer en appel et si aucune majorité ne se dégage, l'affaire passera au Collège des commissaires. Dans l'attente d'une décision, le flou juridique demeure. Pour rappel, au centre du débat, il n'est pas question de biodiversité ou de vie dans le sol, mais bel et bien de la santé humaine. L'OMS, déclarant que la substance est probablement cancérigène, tandis que la FAO conclut que ce risque est peu probable. Le rapport de HEAL, Health and Environment Islands, sur le sujet regroupe un grand nombre de publications scientifiques. À la lumière de votre travail portant sur le vivant, que pensez-vous de cette loi qui cesse d'interroger sur le glyphosate?
J'ai plus un regard technique qu'émotionnel sur cette question. Je suis pas mal portée sur les questions de travail du sol, comment changer nos pratiques agricoles face aux désastres écologiques qui nous tombent dessus. On est vraiment au pied du mur, les sols s'appauvrissent, la vie du sol est dans un état désastreux. Et le fait de continuer à mettre du glyphosate, pour moi, c'est peut-être pas vraiment le problème le plus énorme à surmonter. La vraie question, c'est comment changer radicalement nos façons de cultiver le sol et de consommer. C'est presque un épiphénomène. On met le coup de projecteur sur glyphosate. On n'essaye pas d'aider les agriculteurs à changer de regard, à changer de pratique en profondeur. La vraie catastrophe, c'est qu'on est en train de désertifier les sols et en plus, on est en train de s'intoxiquer.
C'est vrai que j'ai l'impression aussi que c'est comme la pointe de l'iceberg et qu'en fait, en souterrain, il y a énormément même d'agriculteurs en conventionnel qui souffrent d'appliquer ça sur leur sol, qui n'ont pas tellement d'autres solutions pour pouvoir continuer à vivre dans le système économique tel qu'il est aujourd'hui et qui sont en réelle souffrance physique, psychologique, de faire du mal au sol et de se rendre compte qu'ils le font parce qu'ils sont contraints par un système capitaliste qu'on connaît. Du coup, j'aurais presque envie de dire que le glyphosate, ouais, bah, c'est malheureux d'utiliser ce type de produit, mais c'est encore plus malheureux de laisser des êtres humains dans des situations sclérosées où on ne voit plus d'issue, puisque l'agriculture conventionnelle elle, s'est construite sur un certain modèle et qu'on a du mal à en sortir. Les petits paysans dans nos contrées ont du mal aussi à pouvoir vivre de leurs pratiques agricoles et on a besoin de multiplier les petits paysans, de prendre soin de nous. Et peut-être de mettre le curseur aussi sur tous ceux qui font que chaque matin ils se lèvent et qui prennent soin de cette terre-là.
Quel rendez-vous pourriez-nous proposer pour vous retrouver ?
On a une date le 30 juillet 2023 à Prandaigne dans le Lot et c'est pour le festival Segalart.
On aime beaucoup participer à des événements qui aident à croiser les regards et les sensibilités sur le vivant. On est très ouvert à différentes propositions, que ce soit pour la Journée mondiale de la biodiversité ou la Semaine du développement durable.
Les nuits des forêts.
On est ouvert à propositions qui dépassent les cloisons. Nous, on danse pas dans les théâtres, on danse dans la rue, dans les parcs, dans les forêts, dans les jardins. On aimerait vous donner rendez-vous dans tous les jardins qui veulent ouvrir leurs portes et nous accueillir pour partager un moment de danse et précéder d'une balade pour parler des arbres, parler d'écologie au sens scientifique et au sens humain aussi.
La compagnie a dans ses ressources des chorégraphes, notamment Louise Guillochet qui a mis en scène le spectacle, Fanny Aguado. Elles peuvent aussi proposer des actions de médiation en plus du spectacle qu'on viendrait jouer dans votre jardin, dans le jardin de la commune. Nous, on a juste besoin d'un arbre et de 8 mètres à peu près de diamètre. Et aussi en action de médiation, il y a Marc Guillochet avec Nathalie Chastre. Tous les deux, ils sont très animés par la poésie, par la recherche et aussi la recherche de la lecture à voix haute. Voilà. Et Marc Guillochet est aussi vidéaste. On est nombreux à pouvoir proposer des choses.
Et on peut aussi proposer d'emmener le public en balade, de faire un travail de pratique somatique au contact du paysage, donc faire de l'éco-somatique ensemble.
Louise Guillochet et Marc Guillochet.
Fanny Aguado, Léontine Bonne.
Nathalie Chastre, Jean-Baptiste Clément,
Laura Constansou, Corinne Debar,
Daniel Coul, Stéphanie Maurier,
Thomas Pellissier, Sandra Roux,
Adeline Sureau, Mathilde Terral
et Philippe Zanin.
Avec l'aide de Dominique Bex,
Emmanuel Clémenceau,
Anne Gascoin,
Élodie Madebeau
et Daniel Roblin.
La vie est belle.
La vie est belle.
Tu y as pêché où, baobab, acajou, baobab, acajou. Tu y as pêché où, sur au cyprès, pendant des longs.